politique, également enseignant dans le Montclair State University. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Claude. Vous vivez dans cette région de Washington depuis des décennies. Avec le COVID-19, on savait déjà que l'investiture de Joe Biden serait différente des précédentes. Mais quelle lecture faites-vous de la manière dont Joe Biden et Kamala Harris entament leur présidence avec une ville presque en état de siège?
Oui, tout à fait. Washington s'est transformé en un camp retranché. Ce qui retire beaucoup à l'importance de cette investiture. Les Américains ont toujours été très fiers de la façon dont le transfert du pouvoir se déroule. Il s'est traditionnellement toujours déroulé pacifiquement, paisiblement. Mais depuis les événements du 6 janvier et l'assaut contre le Capitole, les choses ont drastiquement changé et Washington, et le centre de Washington est pratiquement inabordable. La joie que l'on voit normalement lors d'une investiture, l'espoir que crée l'arrivée d'un nouveau président à la tête du pays, seront malheureusement absents demain.
Alors, Daniel, c'est une cérémonie d'investiture placée sous le signe de l'unité. C'était aussi son principal thème de campagne. Comment va-t-il s'y prendre au vu des récents événements?
Oui, et ça c'est certainement une question fondamentale parce que Biden est confronté au minimum à trois défis. Le premier, évidemment, c'est de réunifier les Américains après 4 ans quand même de désastre politique, il faut le reconnaître. Le second défi sera certainement celui du Covid, auquel il doit répondre urgemment. Mais il doit également songer à rétablir l'état de droit, puisque nous pouvons dire aujourd'hui que, quand même que l'état de droit américain n'a pas réellement survécu au régime de Donald Trump. Donc vous voyez que ce défi qu'il attend est monstrueux. Je crois que très peu de présidents ont eu à faire face à ce que M. Biden va devoir faire face par rapport à dans le cadre de sa présidence. Et je crois qu'il va lui falloir évidemment être fort, mais également établir ses trois priorités d'une manière qui puisse réellement assurer une sorte de retour à la normale, une sorte de réconciliation nationale autour des valeurs véritablement qui ont souvent été des valeurs américaines, c'est-à-dire à la fois la croyance à l'état de droit, le respect de l'autre dans la mesure où, oui, nous avons tous ici dans ce pays le droit à l'expression, mais notre droit à l'expression ne doit pas pouvoir supplanter le droit des autres. Donc vous comprenez que oui, la réunification va être une priorité importante, mais également le fait de réconcilier les Américains avec eux-mêmes.
Oui, justement, Jean-François Sesnec, ce n'est pas la première fois qu'un président américain entame son mandat dans des conditions difficiles. Roosevelt, durant la Grande Dépression en 1933, ou même plus récemment, Obama avec la crise économique de 2007-2008. Cette fois, en quoi le défi de Biden est différent?
Bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Daniel. C'est même exprimé d'une façon formidable. Le fait qu'il faut que Biden doit s'occuper de la réunification de l'État, de rétablir l'État de droit est très important. Et bien sûr, en plus de ça, le Covid, c'est en fait un peu ce que avaient les problèmes du président Lincoln, en plus avec le Covid. Alors donc, il va avoir une tâche très très difficile, effectivement. Mais heureusement, c'est un homme qui a beaucoup d'intégrité, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience et qui, je pense, aura quand même le support d'un grand nombre de républicains malgré la déchirure qu'il y a entre, même dans le parti républicain, entre les groupes plutôt extrêmes et les groupes plutôt centristes.
Claude, justement, beaucoup parle de son expérience, comme le disait Jean-François. Comment peut-il réussir sa présidence avec tous ces défis, le Covid, l'économie, la division du pays?
Ce qui va l'aider, comme le soulignait Jean-François Sazenec, c'est son expérience, sa longue expérience politique. Il connaît tous les membres du Congrès, ou du moins un certain nombre. Il a l'habitude, il a toujours été un conciliateur. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Je ne partage pas tout à fait le.
Certains membres de son parti, surtout ceux qui sont à gauche, le considèrent comme un rêveur quand il parle quand il met en avant son expérience de rassembleur. Est-ce que le contexte actuel s'y prête? Vous pensez qu'il a des chances dans ce domaine-là?
Bah, écoutez, il faut l'espérer, hein. Tout porte à l'espoir. Il faut avoir l'espoir, au moins, qu'il va pouvoir réussir. S'il y a un homme qui peut essayer de rassembler le peuple américain, si profondément divisé, c'est certainement Joe Biden. Parce que, comme je le disais il y a un instant, il a toujours été un conciliateur. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-François Sazenec, c'est quand il pense que les républicains vont facilement accepter la main qui leur tend, leur rameau d'olivier. Le gros problème de Biden, c'est qu'il a 74 millions d'Américains, dont une bonne majorité estime qu'il n'a pas été élu légitimement. Alors, quand vous commencez comme ça, votre présidence, c'est pour le moins une course d'obstacles véritable.
En tout cas, vous me donnez l'occasion justement de faire la transition vers Kamala Harris, dont la vice-présidence est déjà considérée comme historique, n'est-ce pas? Et elle aura le vote déterminant au Congrès, ou plutôt au Sénat, et ça renforce justement le caractère historique de sa vice-présidente, n'est-ce pas, Jean-François Sazenec?
Ah oui, absolument. Je pense que d'avoir nommé Kamala Harris comme vice-présidente par Biden, c'était un coup de génie en fait, parce que ça lui donne, ça lui promet, si vous voulez, le support de beaucoup de minorités dans le pays, pas uniquement une minorité africaine, hein, mais une minorité asiatique aussi, et puis les femmes, et quand même c'est quelqu'un qui, elle était procureure générale, donc elle a aussi une bonne réputation parmi les forces de police. Donc c'était une très 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 bonne chose, et je pense que ça va aider un petit peu le côté centriste de Biden. Et pour répondre à ce que disait Claude tout à l'heure, je trouve qu'il a tout à fait raison, il ne faut pas être trop optimiste, et je ne suis pas trop optimiste, mais je pense qu'il y a une ouverture en ce moment possible pour Biden sur le centre, c'est-à-dire qu'il va... Il va peut-être créer, je ne veux pas dire qu'il va créer un troisième parti, mais en fait, de fait, il va y avoir une tendance au Congrès entre les centristes, qu'ils soient républicains ou démocrates, et les extrémistes, qui seront aussi démocrates, et de l'autre côté, dans l'autre extrême, du côté républicain. Donc, s'il peut, comme c'est un homme quand même très intelligent et qui a une expérience de la politique extensive, il va pouvoir peut-être jouer tous ses partis les uns contre les autres, à l'avantage du pays.
Voilà, donc on va lire quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Jean-Luc Mukutu de Lubumbashi en RDC. Il nous dit que l'avènement du démocrate Biden est une conséquence logique de l'échec de Trump sur plusieurs fronts, entre autres la gestion de Covid-19 ainsi que les relations très tendues avec les partenaires traditionnels des États-Unis. Si Biden a en fait son programme, son mandat s'annonce ambitieux. Et Abdourahmane Koulibaly de Conakry en Guinée, il écrit: c'est la fin d'une ère, le monde a besoin de solidarité internationale pour promouvoir le développement durable de notre planète. Et puis Junior Bompongo en République démocratique du Congo, il n'a pas précisé sa ville, il écrit: son mandat s'annonce difficile dans une Amérique plus divisée que jamais, il doit commencer par rassembler les Américains. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. L'ancien vice-président Joe Biden a donc été investi le 20 janvier 46e président des États-Unis. Tous les quatre ans, les Américains sont les témoins de ce transfert pacifique du pouvoir en symbole puissant de la démocratie américaine. Dora Mekouar de la VOA nous plonge dans l'histoire des investitures de présidents américains. C'est un récit de Lionel Daima.
I, Harry S. Truman, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Le jour de l'investiture est une affirmation de l'idéal américain d'autonomie gouvernementale. Un nouveau dirigeant prête serment apte à gouverner avec le consentement des gouvernants.
Faisons de ce jour d'espérance le chapitre le plus noble de notre histoire.
Les nouveaux présidents entament leur mandat par un discours qui donne le ton aux quatre années à venir.
La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même.
Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays.
C'est une réelle opportunité de renouveau américain. C'est la première fois que le président se présente comme le président de la nation et il n'aura plus jamais cette opportunité de le faire. C'est donc un moment très important de l'histoire américaine.
Le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement est le problème.
Qu'il s'agisse de l'appel de Ronald Reagan à limiter le pouvoir fédéral ou la prestation de serment du premier président africain-américain, il y a des moments où les investitures transcendent le temps.
Ces moments font partie de la mémoire nationale parce qu'ils témoignent de quelque chose de fondamental pour le pays et la période durant laquelle ils se produisent.
Des moments pour des gestes symboliques aussi. En 1809, James Madison a voulu que toute sa tenue d'investiture soit fabriquée en Amérique. Le défilé inaugural de Dwight D. Eisenhower, en 1953, a présenté la puissance militaire américaine.
En 1865, lors de la deuxième investiture d'Abraham Lincoln, il a invité les Africains-Américains à participer pour la première fois à la cérémonie. En 1917, deuxième investiture de Woodrow Wilson, les femmes ont participé au défilé pour la première fois.
L'investiture de William Henry Harrison en 1841 a été la plus tragique. À 68 ans, l'homme le plus âgé, jamais élu président à l'époque, a prononcé le plus long discours de l'histoire inaugurale, plus d'une heure, malgré des températures glaciales. Harrison tombe malade ce soir-là et rend l'âme un mois plus tard. C'est le mandat le plus court d'un président américain. La télévision a transformé des investitures en événements grandioses.
Au fur et à mesure que les devoirs et les responsabilités du président augmentent, je pense que nous avons vu les investitures prendre une dimension plus grande que d'habitude avec les fêtes et les défilés.
Une célébration de la solidarité de la démocratie américaine.
Voilà donc un peu de rappel historique. Merci beaucoup Lionel Daima. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Daniel Menguera, Montclair State University dans le New Jersey. Nous avons Jean-François Seznec, économiste et politologue à l'Atlantic Council. Et Claude Porcella, journaliste et ancien chef du service francophone de La Voix de l'Amérique. Alors Daniel, Biden a annoncé sa volonté, je cite, de reprendre sa place de leader dans le monde. Comment peut-il s'y prendre, surtout après tout ce qu'on a vu récemment ici aux États-Unis?
Écoutez, nous sommes dans une situation où on va en fait aboutir à cette philosophie qui dira à Trump que ce qu'il avait fait à Obama, c'est-à-dire supprimer donc tous les accomplissements d'Obama par ses décrets qu'il a émis, eh bien, je crois que Biden sera obligé de renverser tout cela. Il y a des décrets que Trump avait pris, par exemple les accords sur le climat à l'international, les mesures contre l'Iran et pas mal d'autres mesures qui, en fait, vont devoir interpeller Biden pour qu'il rétablisse le rôle de l'Amérique dans le monde. L'Amérique a traversé, il faut le dire, 4 ans d'isolationnisme politique et parfois même économique, puisqu'on a vu certaines mesures contre la Chine, par exemple. Donc, cela va demander justement à Biden de reprendre le flambeau, le leadership mondial que l'Amérique a toujours assumé, telle sorte qu'il puisse désormais rétablir les partenariats qui vont permettre à cette Amérique de rejouer le rôle qu'il a toujours joué en partenariat avec ses amis européens, mais aussi asiatiques, parce qu'il faut le reconnaître, la Chine aujourd'hui est un élément incontournable pour l'Amérique, non seulement en matière économique, mais aussi en matière géopolitique. Il va falloir que cette Amérique-là se réinsère dans ce débat international et réaffirme non seulement les intérêts américains, mais aussi les intérêts du monde, comme par exemple aujourd'hui le Covid demanderait un leadership mondial de l'Amérique pour aider en réalité le monde à résoudre cette crise, non seulement dans les frontières américaines, mais également à l'extérieur.
D'accord. Alors, Jean-François Seznec, vous travaillez beaucoup sur le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Alors, Joe Biden doit un peu naviguer entre sa volonté de revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien, tout en ménageant deux alliés importants de Washington dans cette région, Israël et l'Arabie Saoudite. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre?
C'est une question très difficile. Il va bien sûr essayer de faire plaisir à tout le monde, si vous voulez, de travailler un peu plus avec l'Iran, enfin de limiter un peu le danger de l'Iran, tout en se mettant du côté d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Mais c'est très délicat parce que l'Iran n'a aucune intention de rejoindre l'accord nucléaire s'ils n'obtiennent pas énormément d'avantages des États-Unis, comme de l'argent, la libération des fonds iraniens qui sont bloqués. Ça va créer effectivement beaucoup de tensions avec l'Arabie Saoudite et avec Israël. Alors, comment est-ce qu'il peut faire tout ça? Ça va être très difficile. Franchement, je n'ai pas de solution. J'aimerais bien avoir des solutions. Mais je pense malheureusement que la tension avec l'Iran va continuer parce que les États-Unis ne pourront pas marcher vers l'Iran sans se mettre à dos l'Israël et l'Arabie Saoudite. Donc les tensions avec l'Iran, à mon avis, vont continuer très substantiellement.
Et Claude, il y a une série de décrets présidentiels qui sont annoncés par la nouvelle administration. Il y a surtout le retour annoncé des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat. Comment Joe Biden va-t-il équilibrer sa volonté de restaurer, comme il le dit, l'image de l'Amérique à l'étranger et dérouler son agenda domestique?
Oui, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La priorité de Biden maintenant, c'est d'une part, comme le disait Daniel, de rassembler le peuple américain, de le réunir. Mais il y a la pandémie, il y a la crise économique. Il y a des tas de dangers pour la politique étrangère. Il y a la Corée, il y a la Chine dont tout le monde pense, au moins une majorité pense qu'elle va devenir la puissance dominante d'ici peut-être 10 ans. Et il y a une certaine prévention, inquiétude, dirais-je, de la part de nos alliés traditionnels. Oui, bien sûr, ils se réjouissent de voir Biden revenir prendre les rênes du pouvoir, car ils ont été fort maltraités pendant 4 ans. Mais en même temps, ils disent, tout ce qui s'est passé, ils n'ont plus, si vous voulez, dans les États-Unis, la confiance qu'ils avaient dans le passé, en raison de ces 4 années où ils ont été véritablement ignorés. C'est une tâche énorme en matière de politique étrangère, et vu les dangers qui existent avec une Corée du Nord qui va probablement tester de nouveaux missiles, parce que chaque fois qu'un président américain arrive, un nouveau président, ses adversaires comme la Russie, comme la Chine, comme la Corée du Nord ou l'Iran même, sont tentés de tester le nouveau président. Et c'est là que ça devient une période de tous les dangers.
Oui, peut-être on va rapidement parler d'immigration. Daniel, Joe Biden promet une approche plus humaniste de cette question de l'immigration. Cela ne veut pas forcément dire l'ouverture totale des frontières, mais comment est-ce que sa politique va être différente de celle de son prédécesseur?
Non, mais je pense que pour Biden, il faudra simplement rentrer dans la tradition, enfin revenir à la tradition démocrate qui a souvent été que, dans la politique d'immigration, il faut un minimum d'humanisme. Et cette politique n'est pas nécessairement antinomique avec la tradition américaine elle-même, que ce pays est construit d'abord sur la base de l'immigration, que... la force de l'Amérique, c'est justement sa capacité à absorber.
Même les républicains, les républicains traditionnels sont généralement pro-immigration aussi, il faut le dire.
Oui, mais bon, le jour, vous savez, après Trump, la question de l'immigration chez les républicains est devenue, on voudrait dire, une sorte de cadeau empoisonné, ou de politique empoisonnée. Donc je ne suis pas sûr que, dans ce contexte-là, les républicains aient... l'ascendant moral. Mais ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que un retour à une politique normale, on va dire, donc un peu comme ça existait sous Obama, sera certainement la meilleure approche. Et nous savons déjà aussi que Biden devra quand même aller vers cette amnistie que la plupart des gens demandent pour au moins évacuer, on va dire, l'accumulation, n'est-ce pas, d'illégalités qui a été enregistrée ces dernières années. Mais au-delà de cela, je pense que c'est juste aller vers une forme de normalisation, donc de cette approche normale que l'Amérique a souvent entretenue.
Oui, Claude, vous aurez le mot de la fin. Cette question de l'immigration et même la politique étrangère, ce seront des sujets déterminants dans la discussion politique intérieure ici, ou bien on va continuer à parler immigration, plutôt économie et autres, en ayant en vue un peu les élections de mi-mandat?
Oui, non, l'économie va dominer, ainsi que la lutte contre le virus. Pour ce qui est de l'immigration, je ne suis pas très très optimiste, parce que n'oubliez pas, ça fait des décennies et nombre d'administrations qui ont essayé de réformer le système d'immigration. Ça a commencé avec Reagan. Reagan avait approuvé une amnistie pour un certain nombre de millions d'Américains, d'immigrés, de clandestins. Et puis après, Bush a bien essayé de réformer le système, Clinton, tous les présidents sont cassés les dents sur ce sujet. Est-ce que Joe Biden réussira mieux que ses prédécesseurs? Il faut l'espérer, mais ça n'est pas joué.
En tout cas, merci. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis soit sur notre site internet voafrique.com, soit à travers nos télépartenaires sur le continent. Je n'oublie pas l'équipe technique. On se retrouve très bientôt. Au revoir.